Salut les gamers, c'est Creepers.
Salut les mélomanes, c'est Ron.
Et bienvenue dans la Pizzbox.
On arrive à Noël, la période où on a envie de faire plaisir et de se faire plaisir. Il y a du bon sentiment partout, tout le monde s'aime, tout le monde va préparer des cadeaux à faire et croiser les doigts pour recevoir le cadeau rêvé. Et des cadeaux, c'est exactement ce qu'on va vous faire aujourd'hui dans la Beatbox. Aujourd'hui, on n'est pas là pour vous faire découvrir la musique d'un obscur jeu sorti en catimini en Corée. Non, on va plutôt s'écouter des morceaux que vous avez adorés. À la fin de cette émission, vous allez forcément avoir au moins une musique dans la tête que vous allez chantonner pendant un bon moment. En tout cas, perso, c'est ce que ça m'a fait quand j'ai préparé ma sélection pour aujourd'hui.
Alors vous le savez, Noël c'est une nuit très spéciale pour les enfants, ils trépignent depuis des jours, ils sont excités et n'attendent qu'une chose, c'est ouvrir leurs cadeaux. Enfin, moi je dis ça, mais je dois avouer que je suis généralement un peu dans le même état. Alors ce qu'on va faire, on va commencer cette émission avec une petite sucrerie qui va directement vous donner le sourire. Alors on va pas se mentir, rendre charismatique une petite boule rose qui avale tout ce qui bouge, c'est pas forcément évident, et pourtant c'est un tour de force qui a été réalisé par Masahiro Sakurai, ouais je sais c'est assez impressionnant, en 1990, et à la base le personnage de Kirby devait s'appeler Popopo. Voilà, représente Matt, hein, si tu nous écoutes ça va te faire plaisir, je sais que tu kiffes dire Popopo à tout bout de champ. Alors la musique qu'on a écoutée, on va retourner quand même à notre sujet principal, donc a été composée par Jun Ishikawa pour Kirby's Dream Land 3 sur Super Nintendo. Et autre petit détail amusant, donc à la base, Nintendo a voulu rendre hommage à un avocat, donc John Kirby, Donc en appelant le personnage principal de Kirby, Kirby, voilà, tout simplement. Et ça fait maintenant 25 ans que ce petit personnage tout mignon donc amuse petits et grands avec des jeux très accessibles. En tout cas, moi j'aime bien, et au passage, on va faire un gros bisou à Satoru Iwata, qui est mort cette année, et donc qui avait travaillé sur Kirby. Alors on va continuer dans le personnage culte, et on va aller du côté d'un héros à grandes oreilles, qui nous a bien fait kiffer quand on était tout petit.
La souris superstar américaine, et pour rendre hommage à une souris superstar américaine, qui de mieux que Tokuhiko Uwabo, un habitué des productions Sega qui a à son actif quelques autres musiques mythiques comme celle de Revenge of Shinobi par exemple, qu'on passera bien un jour dans une émission. Alors cette musique, si on devait inventer un jour un dictionnaire auditif, je pense qu'il y aurait cette musique au mot champêtre. On se promène dans les bois, il y a des champignons, tout ça c'est bien gentil. Et voilà, c'était un jeu mythique à cette époque, un gameplay génial, il y avait des tas d'idées dans tous les sens, ça laissait beaucoup de bons souvenirs à beaucoup de gens, et notamment des souvenirs musicaux, je suis sûr que plusieurs d'entre vous sont déjà en train de chantonner ce qu'on vient d'entendre.
Alors à noter que moi aussi, j'aurais pu, dans cette émission, mettre du Mickey. C'est un peu d'ailleurs comme le combat à l'époque Aladdin Mega Drive et Aladdin Super NES. Moi j'avais, non pas de Mega Drive à l'époque, j'avais une Super Nintendo. Et j'avais vraiment beaucoup aimé Mickey Magical Quest, donc sur Super Nintendo. Donc je sais que c'est moins bien que ce qu'on a entendu juste là, mais je tenais quand même à le signaler.
Ouais, c'est vrai, on l'a échappé belle finalement, on aurait pu avoir la mauvaise version de Mickey. Heureusement que c'est moi qui l'ai choisi, quoi. Bon, on va laisser tomber les gentils tout mignons, hein, surtout qu'on va peut-être réussir à s'engueuler à ce sujet si on continue. Et on va faire immédiatement un bond dans le futur pour voir ce qui fait un drôle de petit bonhomme bleu. Thank you.
Ouah, mais comment ça déboîte ! Franchement, à chaque fois que j'entends ce morceau de Mega Man 2, moi je bondis un peu partout, j'ai envie de remplacer mon bras par un laser et défoncer absolument tout ce qui bouge, donc on peut le dire, c'est complètement mythique, c'est vraiment le mot qui apparaît directement devant moi quand j'entends la musique de Mega Man 2. Donc c'est composé par Takashi Tetaishi. Et franchement, ça fait le bonheur d'ailleurs de tous les fans de chiptunes, parce que toutes les bandes originales des Mega Man sont surpuissantes, donc surtout ceux de l'époque de la NES. C'est, ça ne vieillit pas. Voilà. Même si c'est des sons qui viennent d'un autre âge, je trouve franchement que ça ne vieillit pas. Et c'est clairement une grosse source d'inspiration de beaucoup, beaucoup de personnes qui font de la chiptunes maintenant. Donc forcément, dans la tête des gens aussi, Mega Man, eh ben c'est dur, c'est extrêmement dur. Ah, donc ouais. C'est pour ça, on profite de cette émission. Là, il y a rien à faire. Vous avez juste à écouter et à passer un bon moment. D'ailleurs, on va rester en 1989, on reste dans l'action, mais cette fois, les amis, on quitte les consoles.
Sorti en 1989 sur Atari ST et Amiga, avant d'être déployé sur plein de machines, même sur Game Boy, et oui, ça peut surprendre un petit peu. Et donc c'était un shoot tout à fait honnête, mais dont on se souvient surtout pour une chose, cette musique complètement dingue. C'est la première fois, je crois, ou une des premières fois en tout cas, qu'on prenait pour un jeu une musique d'un album existant, de Bomb the Bass, qui était en train de cartonner déjà dans les charts en Angleterre. Et là, ce morceau, Mega Blast, Hip Hop Home Precinct 13, vous avez bien reconnu, bien entendu, l'inspiration plus que forte de la musique de John Carpenter pour le film Assaut. On va le dire à chaque podcast, mais les films de John Carpenter, regardez-les.
Ouais, j'ai l'impression qu'on place Carpenter à chaque émission, c'est assez incroyable, mais c'est une preuve qu'on a du goût.
Ouais, ça, tu m'étonnes. Alors, cette chanson, c'était le début de la digitalisation sur les Atari ST et Amiga, et à ce moment-là, en fait, on invitait les potes à la maison, même pas pour jouer, juste pour écouter les morceaux, et je ne compte pas le nombre de fois où j'ai mis la bonne vieille disquette dans l'Atari ST, juste pour qu'on puisse laisser défiler cette musique pendant le jeu. Alors c'était pendant le jeu, parce que sur Amiga, c'était pendant l'intro, il y avait une intro de fou sur Xenon 2, enfin de fou, c'est très relatif aujourd'hui. Enfin voilà quoi, c'est une petite page d'histoire, ça date un petit peu, mais je suis sûr que vous avez pu entendre que ça reste encore très très efficace, que ça reste bien dans la tête, alors à la fois grâce à Bomb the Bass, mais aussi sans doute grâce à John Carpenter, notre grand ami quoi, hein, John, si tu nous entends,
bisous
John. On va passer maintenant à une autre catégorie, des personnages mythiques, gentils, mais quand même avec leur petit caractère. We'll be right back. c'est en 91 que Sonic débarque à la vitesse de la lumière en mettant un énorme coup de pied dans le monde de la plateforme. Il est cool, il est speed, il est moderne, c'est une vraie révolution et enfin une alternative au plombier joufflu que j'ai oublié moi dans la seconde quand Sonic est arrivé.
Alors ça tombe bien parce que maintenant c'est un peu Sonic hein, qu'on a oublié.
Ouais, c'est pas faux. Ouais. Alors certains disent que les musiques de Sonic 2 sont meilleures et je crois qu'ils ont sans doute raison. Cela étant, voilà, c'est Sonic 1 qui est arrivé en premier, donc c'est ces musiques-là qui sont gravées dans nos mémoires, donc c'est celles qu'il fallait absolument réécouter aujourd'hui, sans compter qu'elles sont vraiment pas mal, celles que je vous ai sélectionnées. Et c'était une époque qui était quand même assez sympa au niveau de ces héros qui étaient un peu des anti-Mario. Sonic n'était pas le seul. Il y en a un autre aussi qui était sur 16 bits au même moment, une sorte de créature complètement improbable qu'on va se remémorer à travers cette musique.
Alors à noter aussi qu'il y a sur la version Master System aussi de très très bons morceaux. Alors c'est un peu étonnant vu la différence de puissance entre la Mega Drive et la Master System, mais honnêtement les musiques de Sonic passent très très bien aussi sur cette machine là. Alors on était en train de se le dire un petit peu en off, elle est quand même bien chelou, cette musique d'Earthworm Jim, clairement.
Comme le personnage.
Comme le personnage. Alors, Earthworm Jim, c'est un peu un mélange improbable entre un humanoïde et un ver de terre, voilà, tout simplement. En fait, on contrôle donc un lombric qui se voit doté d'intelligence après avoir enfilé une combinaison. Et finalement, c'est un peu un message d'espoir pour tous les cons de la Terre. Franchement, les gars, rien n'est perdu.
Faut juste des combinaisons, quoi.
Voilà, faut juste trouver plein de combis, bon, il va falloir... Mais l'avantage, Rhône, c'est qu'on pourrait créer une entreprise et franchement, on pourrait se faire des couilles en or.
Ah, il y a moyen parce qu'il y en a des cons, quand même.
Il y en a quand même pas mal de cons. Alors, concernant la musique, c'est un peu ce qui nous préoccupe aujourd'hui, laissons les cons de côté, Tommy Tallarico, donc très très connu maintenant, hein, parce qu'il fait aussi les vidéos Games Live depuis quelques années, donc c'est aussi le compositeur, entre autres, de Global Gladiator, de Terminator, ou encore de Metroid Prime, un mec bourré de talent qui a gagné énormément de prix dans toute sa carrière. Alors, respect, mec, et si vous pouvez écouter un petit peu les vidéos Games Live, c'est plein de pêche, ça, il y a pas mal de reprises de très très grande qualité, donc c'est vraiment un concert qui est très nerveux, entièrement donc dédié aux jeux vidéo. Allez, on monte d'un cran dans le culte, mais cette fois, place à la baston. Bon là, je me mets à genoux. Là, attention, c'est le jeu, mon jeu de Super Nintendo, je pense. C'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps. Donc là, c'est la version Street Fighter 2 Turbo. Donc le niveau de Ken, vous l'aurez reconnu de toute façon, c'était le pouvoir à l'époque des jeux de baston, c'est de réussir à identifier un petit peu les niveaux. Et c'était quand même bien la classe. Enfin, pour moi, chaque personnage, j'arrive à vous dire directement la musique, à vous la chanter comme ça.
Ah ouais, Chun-Li, Chun-Li.
Ok. Hein, ça suffit, je pense. Hein. Voilà, je pense que sinon les gens vont se barrer. Donc c'était mon premier jeu de combat à moi. Donc il y a eu bien sûr plein de jeux de baston avant Street Fighter 2 Turbo. J'allais squatter chez des amis pour jouer à la première version. Vous savez, celle qui était hyper lente. Le premier Street Fighter 2 sur Super NES chez nous qui était hyper lent. C'était en mode Matrix. Donc là, c'est vraiment mon premier jeu à moi qu'on m'a offert. Donc que je mettais dans ma Super Nintendo. Je pouvais jouer avec mes frangins, etc. C'était un des rares jeux avec lequel ils voulaient jouer. Et donc Street Fighter 2, voilà, c'est la puissance du thème, voilà, c'est l'identification directe d'un thème de musique sur un jeu de baston. Moi, ça me reste en tête, le thème principal, les niveaux de Guile, hein, qui est repris un petit peu partout. Il y a une montagne de reprises de ces titres-là. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est un petit peu aussi le but de ce podcast-là, basé sur les musiques qu'on a kiffées. Donc j'ai commencé à enregistrer quand j'étais petit. Donc je mettais un poste cassette à côté et j'enregistrais les musiques de mes jeux préférés. Donc j'ai commencé avec Street Fighter 2. Donc je faisais ma petite cassette que j'écoutais tranquillement le soir. Donc je vous le dis, c'est culte de chez culte au point que ils viennent d'annoncer une version vinyle ultra collector avec 4 vinyles à l'intérieur. Vous pouvez foncer dessus si vous avez un petit peu d'argent à dépenser, on va dire, mais en tout cas c'est un collector de folie. Allez, on reste dans les coups de latte, mais cette fois on va aller nettoyer les rues.
meilleurs beat'em all ever. En tout cas pour moi, c'est Street of Rage 2, une espèce de perfection dans l'ambiance, dans le gameplay, dans le tout. J'y ai joué. Je connais par cœur l'emplacement de tous les méchants. Je peux faire tous les niveaux avec tous les personnages avec seulement 3 coups si je veux. J'adore ce jeu. Et s'il y a un truc dans ce jeu qui est très marquant, c'est bien sûr ses musiques.
Oui.
Par Yuzo Koshiro et Motohiro Kawashima. Encore des habitués de l'écurie Sega. Le premier étant même une petite star qui connaîtra la consécration avec Shenmue un peu plus tard, auquel il a participé. Alors, une caractéristique de ces musiques, c'est que les gars connaissaient très très bien leur matériel, et c'est une utilisation parfaite du chip sonore de la Mega Drive, un petit peu métallique, qui est exploité à la perfection, et ça donne un album de musique 16 bits qu'on peut écouter sans problème aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai fait, j'ai eu beaucoup de mal à sélectionner les morceaux, j'ai dû écouter plusieurs fois l'album en entier, c'est une perle. Et je pense aussi que c'est significatif d'une époque où les musiques se caractérisaient avant tout par leur force mélodique et non pas par leur puissance orchestrale comme on a aujourd'hui, où il y a de la place sur les disques, en gros, quoi. On cherchait l'efficacité, ça fait du bien et ça reste longtemps, longtemps, longtemps dans la tête. Alors après la baston, on va se reposer un petit peu, on va aller sur les pistes de danse.
Allez Ron, on sort la jupette et la boule à facettes.
Mais ouais, en 2000 sur Dreamcast arrive une espèce d'ovni porte nawak dans lequel on contrôle Oulala, non mais déjà le nom, Oulala.
Oulala.
Une animatrice danseuse sexy qui va détruire les aliens par le rythme. Si ça c'est pas du scénario. Alors, il y a trop de raisons pour aimer ce jeu. D'abord, la musique déboîte, vous avez pu l'entendre. Autre raison, à la fin du jeu, il y a Michael Jackson, carrément. Yeah. Et ça, c'est cool. Une autre bonne raison, la presse avait pas trop aimé à l'époque. C'était trop casual pour Gamecult, trop chelou pour les médias mainstream. Mais on s'en fout, le public, lui, il a pris le jeu chez lui, et maintenant, tout le monde continue de s'en rappeler. Et j'ai envie de dire, ça suffit pour en faire un titre qui a sa place dans l'émission d'aujourd'hui. Et on va rester sur les pistes. Alors là, pour le prochain, je dois dire, j'en veux un petit peu à Creepers, hein, parce que quand on prépare, on se dit quel morceau on va mettre, et du coup on les réécoute. Et celui qui arrive, bah, depuis que je l'ai entendu, je l'ai vraiment very very dans la tête, quoi.
Very good. I better.
Very good. Eh, on vous avait prévenu, vous allez la chanter toute la journée, toute la semaine et peut-être jusqu'à la fin de vos jours.
Oh là là, il y a, c'est reparti. Là.
Et Buster Groove, jeu, là aussi, un petit peu ovni, hein, sorti sur PlayStation 1. Alors, c'était l'époque où la PlayStation m'a fait découvrir de nouveaux horizons. Grâce notamment à Parappa the Rapper, avec sa démo qui était fournie dans le PlayStation Magazine, rappelez-vous à l'époque. On avait plein de démos, on pouvait tester les jeux avant de se faire arnaquer. Parce que maintenant, il n'y a plus de démos, bande de salauds, hein. Une fois de temps en temps, peut-être, et encore, on se fait, il faut le payer avec un jeu plein pot. Bon, bref, je m'égare encore une fois. Et donc Buster Groove, jeu complètement fou qui mélangeait à la fois jeu de baston et jeu de rythme. Donc on s'affrontait, soit on affrontait l'ordinateur, soit on pouvait jouer donc du coup avec des amis. Moi c'était avec ma femme, mon amie de l'époque qui est devenue ma femme, je vous raconte ma vie, c'est passionnant. Et donc c'est un jeu où vous enchaîniez les chorégraphies de Folay, que Kamel Wally était même jaloux quand il voyait tout ça. Donc ça mélangeait plein de styles musicaux complètement ouf, chaque personnage avait son style, avait sa musique, encore une fois c'était important pour identifier chaque stage. Et donc on s'amusait à répéter un petit peu tout ça, il y avait plusieurs niveaux de difficulté et on s'éclatait avec plein de mouvements de caméra chelou, on passait de la disco au rap, au funk, enfin bref c'était complètement ma boule. Et donc moi je vous recommande de tester ce jeu là si vous avez l'occasion, je crois qu'il est dispo peut-être sur le PlayStation Store, d'ailleurs c'est possible, peut-être que je dis une grosse connerie vu que j'ai pas encore une fois vérifié, en tout cas
c'est la classe. Est un peu malin, on peut y jouer de toute façon.
Ah, coquin, en tout cas c'est un très très bon souvenir que ce Buster Groove, un jeu original, réjouissant et rafraîchissant. Allez, on enlève nos grosses perruques et nos chaussures à talons, cette fois place à la poésie, à l'émotion et au monde charge.
D'être une page de pub pour donner de la consistance à une conférence pendant l'E3, Shenmue était un jeu mythique, on a tendance à l'oublier. Et surtout, ces musiques étaient mais magnifiques, parmi les plus belles BO jamais faites. Alors, dans cette petite sélection aujourd'hui, c'est la seule musique qui est un petit peu triste. Voilà, c'est vrai, mais je pouvais pas m'en empêcher, on parle quand même de musique mythique et celle-ci a sa place ici. Alors, puis c'est de la vraie nostalgie, dans le sens plaisir d'être triste, ce qu'on ressent quand on écoute ce très beau morceau et qu'on se remémore les heures passées à jouer sur ce jeu, enfin pour ceux qui ont joué bien entendu. Ceux qui n'ont pas joué, bah, ils se contentent de dire super, le 3 arrive. Alors, plusieurs pointures se sont associées pour produire une des plus belles BO jamais faites. J'ai essayé un petit peu de décrypter ça, voir qui a fait quoi dans cette BO, c'est assez compliqué. Donc puisque c'est ça, je vais nommer personne, pas de jaloux.
Et... pas de prise de risque le mec.
Bah voilà, pas de prise de risque, hein. Je veux pas de petits mots qui disent non c'est pas lui tout ça, je nomme personne, je veux pas le savoir. Donc voilà, j'avais envie de cette petite pause contemplative, surtout ça va nous faire du bien avec ce qui arrive maintenant.
Thank you. Regardez les arbres en fleurs, c'est joli, mais ce qui est vraiment beau, c'est la guerre.
Gears of War, en 2006. Ça, c'est du bourrin qui a la patate. Alors ce jeu, tout le monde le connaît, bien sûr, et quand on joue, on fait pas forcément tant attention que ça aux musiques qui accompagnent le jeu, justement parce qu'elles l'accompagnent. Et quand on réécoute, on comprend tout au jeu. Dans le morceau qu'on vient d'entendre, composé par Kevin Ripple, j'espère que je le prononce bien, un gars quand même qui avait déjà un petit peu de bouteille, hein, puisque c'est lui qui avait réalisé les musiques des Unreal Tournament, et qui a travaillé sur pas mal de jeux et de films. Enfin bref, je m'égare dans cette phrase très très longue, donc je mets un point, point, et je redémarre. Dans cette musique, on retrouve un petit peu tout ce qu'il y a dans Gears of War. On a c'est légèrement matiné de militaires. On sent bien qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir, mais on a aussi quand même de gros thèmes musicaux pleins de virilité et de testostérone dans les notes.
Alors vu qu'encore une fois, on est dans l'émission des anecdotes, moi je me rappelle du premier trailer que j'ai vu sur Gears of War. Et quand j'ai vu qu'il y avait des tronçonneuses sur les guns, je me rappelle avoir dit « Putain, mais c'est l'idée du siècle, les mecs !» C'est tellement une putain d'idée. Une tronçonneuse sur les mitraillettes, Ron. Tu te rends pas compte?
Mais moi je crois... Ça a dû me faire un petit peu pareil, hein, je pense. Hein.
Ah mais emballer, c'est peser, quoi. Franchement, ouais. Une tronçonneuse sur les mitraillettes, les gars.
Dire qu'il y a des mecs, ils ont juste des baïonnettes. Non mais qu'est-ce que c'est que ces tafioles?
Ouais, clairement des tronçonneuses. Et autre détail, donc tu parlais un petit peu justement de la grosse musique cinéma, etc. À partir de Gears of War 2, je crois que c'est Steve Jablonski, donc qui est le compositeur attitré d'une saga formidable Transformers de Michael Bay, Michel Bay, tout le monde le connaît, il fait tout péter, et donc il a rejoint donc l'équipe de Gears pour faire la bande son à partir du 2.
C'est ça Gears, hein. On n'est pas là pour la poésie, on est là pour fracasser ses adversaires. C'est exactement ce qu'on fait, et c'est également ce qu'on va continuer de faire avec le jeu qui arrive. We'll be right back.
Allez, on range les gros pétoirs et on sort les sabres, on sort les épées et on va se faire des jolis duels. Et oui, vous avez reconnu le thème incroyable de Soul Edge ou Soul Blade, comme c'est sorti chez nous à l'époque sur PlayStation 1. Donc c'était le grand frère de Soul Calibur qui a tout défoncé sur son passage sur Dreamcast. Mmh. Alors pourquoi Soul Edge ? Alors première chose, quand j'ai mis mon jeu dans ma PlayStation et que j'ai vu cette incroyable cinématique de ouf avec cette musique épique qui nous entraînait un petit peu dans tous les sens pour voir un peu tous les personnages, c'était quand même assez grandiose. Et c'est là où j'ai eu, on en avait parlé un petit peu sur l'émission, sur les intros, etc., ma petite déception sur Soul Calibur, qui m'avait mis une grosse claque après, mais en tout cas, de ne pas avoir vu une belle cinématique d'intro ultra péchu, ça m'avait un petit peu manqué. En tout cas, la claque était quand même là sur Soul Blade déjà à l'époque. C'est nerveux, c'était accessible, c'était quand même assez technique, avec une ambiance qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Parce qu'il y avait quoi ? Il y avait eu l'affreux... Toshinden.
Toshinden, quelle horreur.
Oh mon Dieu. On était tous un petit peu foufou avec la 3D, mais c'était quand même assez dégueulasse, Toshinden. Et là, c'était jouable et c'était cool. En tout cas, ça va rester en mémoire comme une des meilleures intros pour moi dans le jeu vidéo. C'était The Edge of Soul, de la superbe intro de Soul Blade.
...1993. Le jeune Creeper est devant sa Super Nintendo. Là, les alarmes se déclenchent, les avions commencent à décoller, et là, le thème de Cornelia emporte tout sur son passage. Alors, en toute transparence, Ron se foutait de ma gueule. Il disait...
Après, le thème démarre et... Tu fais un tonneau.
Et là, les triangles décollent. Les petits triangles gris. Mais oui, mais le jeune Creeper n'avait pas de PC, n'avait pas vu la 3D, il découvrait la cartouche 3DFX. C'était la fête. On avait de la 3D sur Super Nintendo. On était dans le futur, putain, les mecs. En tout cas, bon, mis à part, encore, moi, honnêtement, j'arrive à rejouer très facilement à Star Fox ou Starwing, comme on l'avait nommé à l'époque, c'était Starwing. Et oui, on aimait bien transformer des titres anglais par des titres anglais.
Ça c'était une bonne
énormément
idée.
De sens. Hein
en tout cas, l'aile des étoiles à la place du renard des étoiles, c'est mieux quand même.
Exactement. Les jeunes n'aiment pas les Fox, ils préfèrent les Wing, les jeunes européens.
Personne ne demande des Chicken Fox.
Exactement, c'était pour les clients de chez McDo. Donc, Star Fox, retournons à nos renards. Star Fox, donc la musique m'emporte à chaque fois, je la trouve épique et elle t'emmène directement dans la baston. C'est hyper rythmé, ça t'emmène vraiment dans la bataille absolue. On est là avec notre super avion et on décolle. Et c'était la fête, franchement, Star Fox. Moi, j'ai un énorme souvenir de ce premier niveau. Parce qu'après, les musiques sont très très bien, et c'est comme d'habitude, hein, c'est le premier instant que tu gardes généralement en mémoire, que tu commences à jouer, que t'es assez jeune, un peu comme Street Fighter, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment un titre qui est resté ancré complètement dans ma tête, bizarrement. J'adore cette musique, j'adore des fois relancer le jeu uniquement pour cette première partie, avec les alarmes qui se déclenchent, le décollage et la musique qui s'enchaîne. Ouais, c'était assez rare à l'époque d'avoir une mise en scène sur un jeu comme ça, sur Super Nintendo, et ça restera dans mon cerveau à jamais. Allez, on reste dans les étoiles, et cette fois, on va rejoindre le Master.
Et là, Halo a tout changé. Bon, on va pas s'étendre sur le jeu en lui-même, sorti en 2002, qui a conquis de nombreux cœurs et changé la face du FPS sur console. Certains disent oui, de toute façon, c'est mieux sur PC. Pop, on s'en fout, c'est pas le sujet. Parce qu'aujourd'hui, on parle musique. Et la musique de Halo, bordel. Franchement, mais quelle bande originale. Là, j'ai pas cherché midi à 14h, je vous ai balancé la classique de Halo, le thème principal, on a les chants grégoriens, les rythmes ethniques, on a cette espèce de musique folle qui donne envie de sortir son flingue et de sauter sur la plage comme dans la carte du cartographe silencieux. Voilà, c'est Martin O'Donnell qui est aux commandes en collaboration avec Michael Salvatori. D'ailleurs, il est intéressant d'écouter ce que dit Martin O'Donnell sur ce qu'il a voulu faire avec cette bande originale et on retrouve ses intentions dans la musique avec un aspect spirituel qu'on a beaucoup avec les chants, avec les rythmes également qui font penser à des rituels un petit peu peut-être étranges qui seraient sur cet anneau qui est dans l'espace. Donc il y a des sons un petit peu ethniques, enfin c'est un mélange de beaucoup de choses qui laisse pas mal de sensations, mais surtout qui met une patate pas croyable et qui reste très très longtemps dans la tête après que le morceau soit terminé, ce qui était exactement le sujet de l'émission du jour.
Et d'ailleurs la musique de Halo qui est identifiable à la première seconde, on va dire, c'est un petit peu comme le thème de Star Wars, je veux dire, tu lances le jeu, tu lances un jeu de la saga Halo, c'est vraiment, ça fait partie de l'identité de cette saga, et ça c'est un sacré coup de chapeau qu'on peut tirer à Martin O'Donnell clairement.
Tout à fait.
Et c'est sur cette musique mythique que s'achève malheureusement ce nouveau numéro de la Beatsbox, camarades.
Ben voilà, c'était un petit peu notre cadeau de fin d'année. On a fait plus dans le classique cette fois, mais j'espère surtout que ça vous a mis la banane. Nous, ça nous a beaucoup plu de préparer cette émission. J'espère que vous allez partager ce plaisir.
Voilà, le but c'était de vous donner le sourire en écoutant tranquillement cette émission, parce qu'on sait qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué, l'ambiance est un petit peu pesante. Alors si on a pu vous apporter un tout petit peu de chaleur, eh ben ça nous fait plaisir.
Je crois qu'on ne se recroisera pas pour un épisode de la Beatsbox avant 2016. L'air de rien, je me trompe, Creepers, là ?
Absolument pas, donc on vous donnera rendez-vous pour une nouvelle émission du jeu vidéo pour conclure cette demi-année, on va dire, de demi-saison, donc de tous les podcasts qu'on a mis en place avec Ron et aussi avec Matt, hein, aussi, qu'on fait un petit coucou à Matt. En tout cas, on espère que ça vous a plu, on espère que vous avez passé un super moment. Rendez-vous, comme d'habitude, sur pcqdg.com, sur Xboxygène, Ron.
Bah ouais, bien sûr, allez, venez nous voir, venez.
Et n'oubliez pas le plus important, partagez si vous appréciez notre travail, donnez-nous plein d'étoiles sur iTunes, allez nous voir sur PodCloud, sur Bad Geek aussi qu'on a rejoint il y a peu, et on se donne rendez-vous en tout cas en 2016 pour vous les fans de musique et de jeux vidéo, et on vous fait des gros bisous.
Gros bisous. Je n'aime pas du tout Kirby.
Ah, mais moi, c'est
plus rien. Gentil. Kirby, ça me fait chier, quoi.
Les boules roses, ça me fait chier. J'aime pas les couilles qui avalent tout. Ah, je vais recommencer. Oh putain, je me suis emballé. C'est trop long. Ah. Fallait bien que je plante à un moment.
Il n'y a pas de Wookie aujourd'hui.
Du coup, je prends une pause avant de dire n'importe quoi.
Les pistes de danse. On va les taquiner la bousni. Allez, on sort la jupette et la boule à facettes. Parce que là, c'est le moment des hommes. C'est les hommes, c'est les barbus, c'est les baraqués. Là, c'est fini de déconner, là. Et dis donc, Rune, ils sont drôlement huilés, tes gros bonhommes.
Ouais, tu m'étonnes. Ça, c'est du rouston. Allez. 3, 2, 1.
I'm waiting. Are you ready? Are you ready? Et là, t'as ton triangle gris qui s'envole avec la musique et c'était fou. Enfin,
waouh, c'est le plus beau triangle que j'ai
jamais
vu.
Ah ouais, mais moi, j'étais comme un fou avec ça. Hein. C'était attention, la 3D débarque. Putain, c'est fou. Qui commence? Merde, on va.
commence. La musique qui commence.
Il y a quelque chose d'un petit peu hypnotique, d'un petit peu rituel, ritualique. Non, bon.
Oh merde.
Qu'est-ce que tu...
Alors tu vois, la ritualiquitude, c'est quand tu veux faire du rituel avec une musique, tu vois.
Ritualique, mais qu'est-ce que c'est que ça?